toutes les semaines à cette heure-ci, tous les vendredis, c'est l'heure de la paracha de la semaine avec le Rav Mordechai Chalençon.
Bonjour, Rav Mordechai Chalençon.
Bonjour, Shabbat Shalom, tout va bien?
Ça va bien, merci et vous?
Baruch Hashem, Baruch Hashem, on est là.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on va parler de cette paracha de Ki Tetzé. Donc, on est toujours dans notre livre de Devarim. Et alors, j'ai envie de dire que Ki Tetzé, c'est un peu un catalogue de mitzvot d'un côté et de trucs à ne pas faire de l'autre. Catalogue pas toujours facile, d'ailleurs. Et on ne va pas pouvoir parler de toutes les mitzvot qui sont abordées dans cette paracha. Alors, volontairement, j'ai évité celles que je considère comme les moins probables, comme la femme non-juive prise en captivité au cours d'une guerre. On va dire que ça ne nous sert pas énormément dans la vie d'aujourd'hui. Et donc, je voudrais qu'on commence plutôt par la mitzvah de mettre des tzitzit aux quatre coins de ses habits.
Magnifique. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 74 mitzvot qu'on va parler dans la paracha. C'est la plus grande, là où il y a le plus de commandements condensés. Et qui est rappelé, vous savez, dans le schéma Israël, c'est que dans le schéma Israël, il y a deux lettres qui sont un peu plus grosses que les autres, le Aïn de schéma et le Dalet de Echad. Et donc, Aïn c'est 70 et Dalet c'est 4. Et donc, c'est cet Edout, le Ed, le témoin, le témoignage des commandements se trouve dans notre paracha. Alors, dans la paracha des Tzitzit, elle est assez spéciale cette paracha, comme vous l'avez dit, parce que d'une certaine façon, on voit que dans la Torah vient nous parler de tous les petits détails de la vie, mais vraiment tout. Comment on se lève, comment on s'habille, pourquoi on s'habille, de quelle façon on va aux toilettes, comment on sort des toilettes, comment on se comporte aux toilettes, comment on se lave les mains après. Vraiment tous les détails, et même dans les habits. Et c'est pour cela qu'il y a une mitzvah très importante qui est de ne pas mélanger le lin et la laine. Pourquoi ? Alors, il y a différentes raisons. La base, c'est parce que le lin, c'est plutôt avec ça qu'on enterre les morts, alors que la laine, c'est pour se réchauffer lorsqu'on est vivant. La laine, c'est plutôt l'habit des riches, la lin, c'est plutôt l'habit des pauvres. Lorsque Cain et Abel, ils ont fait le sacrifice, Abel avait ramené un mouton par rapport à la laine, alors que Cain avait amené le lin, et qui, en fin de compte, a amené la mort de Hevel à cause de la jalousie. Donc, on ne mélange pas ces deux-là. Mais pourtant, il y a un habit spécial qui s'appelle tzitzit. Lorsqu'un habit a quatre coins, on ne peut pas le mettre sur soi. Si par contre, on va mettre des fils qui vont être tissés d'une certaine façon, eh bien dans ces cas-là, on peut mettre cet habit. Et pas seulement on peut mettre cet habit, c'est très bien de mettre cet habit. Ça nous permet de faire une bénédiction, de remercier Hachem de nous avoir permis de mettre cet habit à partir du moment où il y a ces fils qui ressortent des quatre côtés. Et quand on fait le schéma Israël, encore une fois, on va dire « Uritem oto uzchartem et kol mitzvot Hashem ». En regardant ces fils, eh bien, nous allons nous rappeler des 613 commandements. Alors moi, perso, je vois des fils qui sortent, je ne me rappelle pas des 613 commandements, mais en fait, il y a une raison. C'est parce que le mot tzitzit en hébreu a une valeur numérique. D'accord ? Le tzadik, c'est 90, le yud, c'est 10. Encore une fois, tzadik et yud, ça fait 200. Plus le taf qui fait 400, ça fait 600. Donc, on y est presque. Après, nous avons 8 fils et 5 nœuds qui nous fait 13 et donc ça fait 613. L'idée, c'est de pouvoir se rappeler au jour le jour que nous avons 613 commandements et donc de faire attention à nos actes. D'où l'importance de la mitzvah des tzitzit.
Alors, c'est vrai que vous avez parlé de cette histoire de ne pas mélanger le lin et la laine. Et dans la même paracha, on parle aussi de ne pas mélanger, quand on a des bêtes, un bœuf et un âne, par exemple, on ne veut pas les faire travailler ensemble. Et on n'a pas le droit non plus de semer deux espèces différentes, des céréales ou des légumes à côté du vin. Donc, il y a vraiment quelque chose sur ce mélange qu'on ne doit pas faire dans de nombreuses situations.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on peut avoir l'erreur de se dire il y a une chose qui a été créée d'une telle façon, ce qui fait qu'il y a une raison pourquoi est-ce que tel fruit ou tel animal ou tel humain a été créé de telle façon. Et la raison, c'est qu'elle a une mission sur Terre. Et quand on essaye de se dire, eh ben, tu sais ce que je vais faire, je vais annuler la mission que Dieu lui a donnée, je vais essayer de ne pas la faire parce que je n'ai pas envie de prendre les responsabilités pour cela. Et donc, je vais essayer d'inventer quelque chose de nouveau. ça me permettra de ne plus avoir le joug divin et la responsabilité que Dieu m'a donnée. Et ça, ça vaut pour tout en général. Et c'est pour cela que Dieu va insister sur le fait que, d'un côté, même les fruits, les légumes ont une raison d'être et il ne faut pas les changer. Même les animaux ont une raison d'être et il ne faut pas essayer de les changer, et encore moins les humains. Pour cela que juste après, on va amener la loi qu'un homme ne se déguise pas en femme et une femme ne se déguise pas en homme. Parce que chacun a un potentiel précis dans la raison de sa naissance qui fait qu'il a une mission sur Terre que personne ne peut faire. Et ne pas essayer de se dire « eh ben, j'ai envie d'être différent de ce que Dieu m'a donné au moment de ma naissance ». Non, on est comme on est et on doit faire la mission qu'Hachem nous a donnée. Et c'est important de tout simplement de se dire « on a une responsabilité, on ne va pas essayer de s'en cacher, mais on va essayer de faire au mieux ». Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça qu'il faut faire.
Alors il y a une mitzvah qui est très connue et qui en même temps semble au départ un peu compliquée à comprendre. Et alors, c'est drôle parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et comme je la connaissais, ben, je l'ai fait pour la première fois de ma vie. C'est quand on découvre un nid d'oiseau avec la mère qui couvre les oisillons ou les œufs et qu'il faut chasser la mère avant de prendre les oisillons ou les œufs. Et pourquoi je vous dis que ça m'est arrivé? Parce que pendant que j'étais à Bruxelles, il y a un oiseau qui a fait son nid et donc avec les trucs sur mon balcon. Voilà, et comme je n'ai pas l'intention d'avoir non plus tous les oiseaux du pays sur mon balcon, donc bah, je me suis dit, bon bah voilà, je vais faire ce qui a marqué dans la mitzvah. J'espère que j'ai bien fait parce que j'ai trouvé que c'était difficile quand même de chasser la mer et de prendre les œufs.
Mais en fait, c'est exactement ça l'idée. C'est très difficile et on le fait quand même parce que Dieu nous a demandé. Mais quelle est l'idée derrière? Parce que c'est marqué que lorsque une personne va voir un nid d'oiseau, qu'il va chasser la mer avant de prendre les oiseaux ou les œufs. Alors après, l'idée, c'est pas obligatoirement de les prendre et de les garder pour soi. On peut les remettre, c'est pas le souci. Mais de ne pas montrer à la mer qu'on est en train de prendre les œufs. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que dans le ciel, l'ange de l'oiseau va venir voir Dieu et lui dire « Mais Hachem, Dieu, je ne comprends pas. Comment tu demandes à tes enfants de venir chasser la mer pour prendre ses enfants? Mais c'est cruel. Pourquoi est-ce que tu leur demandes de faire ça ?» Et Hachem se retourne vers lui, Dieu se retourne vers lui et lui dit « Mais attends, quand mes enfants ont été complètement jetés de chez eux, quand le temple a été détruit, quand Israël a brûlé, quand dans les différents moments de toutes les générations, ils ont été rejetés, brûlés, tués, où tu étais pour pleurer sur cette cruauté? Il n'y a aucun ange qui est venu se plaindre. Alors si personne ne vient se plaindre, c'est moi, Hachem lui-même, qui viendra aider ses enfants. » Et ça réveille à ce moment-là la miséricorde divine pour la personne qui a fait réveiller cet ange à ce moment-là. Alors c'est difficile à comprendre, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Et ça permet donc de réveiller une très grande miséricorde divine pour la personne, sa famille, et même au-delà, dans la vie.
Tant mieux. Alors, on va finir sur la fin de cette paracha et avec un verset très, très connu, « Zachor et Asher asa lecha Amalek ». Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Amalek, c'est vraiment pour nous le mal absolu, hein. C'est quelqu'un dont on doit garder ce souvenir alors qu'on ignore souvent l'identité de ses descendants, même si malheureusement on en a eu à travers l'histoire un certain nombre, et notamment Aman, for sure, et peut-être Hitler selon certains. Donc cette obligation de se souvenir du mal qui nous a été fait.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a deux choses. Donc comme vous l'avez dit, il y a le Amalek physique, de la personne qui vient, qui est antisémite sans aucune raison, qui est prêt à mourir pour faire mourir quelqu'un du peuple juif. C'est vraiment l'antisémitisme pur. Ça, c'est Amalek. Et Dieu nous dit, sache que dans cette partie-là, il ne faut pas avoir d'une certaine façon de pitié parce qu'il n'est pas là pour essayer de discuter, en fait. Il est simplement là pour faire du mal. Dans ces cas-là, bah, il faut se protéger d'une façon la plus simple possible. Il n'y a pas de discussion à avoir. Quand on peut discuter, c'est une chose, mais s'il n'y a pas à discuter, pourquoi discuter? Mais il faut savoir qu'en fait, ici, le verset nous parle pas seulement de façon physique, mais nous parle aussi de façon morale à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, on sait tous qu'on a un mauvais penchant qui est là, qui essaye de nous faire tomber, qui essaie de nous faire faire des bêtises. Mais il est pas simple. Et on peut discuter avec lui. Oui, mais voilà, tu sais, je comprends que ça, c'est pas bien, mais bon, tu vas quand même kiffer 5 minutes, c'est pas la grave, allez, c'est pas la fin du monde. Et alors, nous, on essaye de discuter, on donne des arguments, etc. Et on se parle à soi-même jusqu'à prendre une décision. Mais de temps en temps, on a un Amalek qui sort et qui nous parle. Et cet Amalek, c'est pas le mauvais penchant. Ce Amalek, c'est la froideur. On a envie de faire une bonne action. On a envie d'aller à la synagogue, on a envie de mettre les teufs. Et puis là, reste au lit, qu'est-ce que tu te prends la tête? Laisse tomber. Pourquoi tu vas te... Oublie cette froideur qui vient refroidir la chaleur que l'on a pour faire une bonne action, c'est Amalek. Le problème, c'est qu'avec cette froideur, on ne peut pas discuter. Pas discuter. Il n'y a rien à discuter. C'est ou on gagne ou on perd. Si on commence à discuter avec le froid va refroidir automatiquement le verre chaud. C'est pas comme quand on essaye de mettre quelque chose de différent, quand on essaye de donner des arguments. Ici, c'est vraiment un glaçon qu'on essaye d'envoyer. À partir du moment où on a mis un glaçon quelque part, ça refroidit ce qu'il y a autour, même si le glaçon il va fondre. À partir du moment où on le laisse trop longtemps, il refroidit son entourage. Et ça vaut dans une classe avec des élèves où il y en a un seul, qui va commencer à refroidir la classe. Quoi qu'il se passe, ça va y avoir des conséquences. Parce que le froid, il n'y a pas de discussion à avoir. Et là, on se doit de se battre et d'anéantir complètement ce froid d'une seconde en disant stop, maintenant je vais, je fonce et je fais le bien. Et ça, c'est ce qu'on doit ne pas oublier, ce que Amalek nous a fait.
Merci beaucoup, Rav Mordechai Chalençon, pour ces explications. Si on pouvait tenter de faire le bien cette semaine, ça serait pas mal.
Ah, bah surtout
Shabbat
avant Rosh
Shalom.
Hashanah.
Shabbat Shalom et à très vite.
Ça va, shalom, shana tova, à bientôt.
À bientôt.